Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Habet investimento scriptum, rex regum et dominus dominantium. Sur son vêtement, il portait écrit ce nom, roi des rois et seigneur des seigneurs. Mes chers frères, Jésus-Christ est roi. Il est le roi des rois. Bien souvent, à l'occasion de cette fête du Christ roi, on souligne sa royauté sur les nations, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en effet une des erreurs principales de notre époque de nier cette royauté sociale de notre Seigneur. Et il est normal qu'on dénonce cette erreur, comme l'a fait Mgr Lefebvre dans son livre « Ils l'ont découronné ». Ils, c'est-à-dire les auteurs du Concile Vatican II et des réformes qui ont suivi, ils ont découronné notre Seigneur Jésus-Christ, notamment en proclamant la liberté religieuse, c'est-à-dire en mettant l'Église au niveau des autres religions, et Jésus-Christ au niveau de Mahomet, Luther et Bouddha. Cependant, aujourd'hui, plutôt que la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voudrions parler de la royauté de Jésus-Christ sur nos âmes. Notre âme est un petit royaume dont Jésus-Christ doit être le roi. Voyons d'abord que notre âme est un royaume, et puis nous verrons comment Jésus-Christ peut être le roi de ce royaume. Notre âme est un petit royaume, avec un roi, une reine et des sujets. Le roi de notre âme, c'est notre raison, notre intelligence. La raison est la faculté la plus élevée de notre âme, et c'est elle qui doit diriger les autres facultés. La reine de notre âme, c'est notre volonté. La volonté est une faculté spirituelle, comme l'intelligence, et à ce titre, elle est égale à la raison. Cependant, elle doit suivre la raison. Les sujets, ce sont toutes nos facultés sensibles. De même qu'au niveau spirituel, il y a deux facultés, la raison et la volonté, de même au niveau sensible, au niveau qui nous est commun avec les autres animaux, il y a deux sortes de facultés, les facultés de connaissance sensible et les facultés de désir, qui nous font désirer les objets sensibles ou qui nous poussent à les fuir. Les facultés de connaissance sensible, ce sont nos cinq sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, mais aussi les sens internes, comme l'imagination. Quant aux facultés de désir sensible, elles sont au nombre de deux. Le concupiscible, qui nous fait désirer le bien sensible, et l'irascible, qui nous fait repousser des obstacles qui nous empêchent d'atteindre ce bien sensible. Le concupiscible et l'irascible sont perpétuellement en mouvement dans notre âme et produisent ce que les anciens appelaient les passions. Jésus-Christ doit régner sur ce petit monde intérieur, sur notre raison, sur notre volonté et sur nos facultés sensibles. Voyons cela brièvement. Jésus-Christ doit régner sur notre raison. Je suis la voie, la vérité et la vie. Si Jésus est la vérité, il doit s'imposer à notre intelligence. Celle-ci doit se soumettre à la vérité. Pie XI, dans son encyclique Quas Primas pour le Christ roi, écrite en 1925, disait « Jésus-Christ règne sur les intelligences humaines. à cause de la pénétration de son esprit et de l'étendue de sa science, mais surtout parce qu'il est la vérité et que c'est de lui que les hommes doivent recevoir la vérité et l'accepter docilement. Concrètement, notre intelligence reconnaît la royauté de Jésus-Christ quand elle se soumet à lui par la foi et par la prudence chrétienne. La foi est une obéissance de la raison à la vérité divine. On accepte les vérités que Dieu nous révèle, même si on ne les comprend pas. Notre foi accepte de croire que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est présent substantiellement dans le Saint-Sacrement, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes réellement distinctes et pourtant ne formant qu'un seul Dieu. Jésus-Christ règne encore par la prudence chrétienne. Notre intelligence ne nous sert pas seulement à connaître la vérité, elle nous sert aussi à diriger nos actions. La prudence chrétienne consiste à agir selon les maximes de l'Évangile. Par exemple, avoir dans les béatitudes des règles de vie, à estimer la pauvreté en esprit, la douceur, les larmes de la pénitence, la patience dans les persécutions. Bref, la prudence chrétienne consiste à prendre l'Évangile comme règle de vie pour chacune de nos actions. Jésus-Christ doit encore régner sur notre volonté. Pie XII continue dans Quas Primas. On dit que Jésus-Christ règne sur les volontés humaines parce qu'en lui, à la sainteté de la volonté divine, correspond une parfaite rectitude et soumission de la volonté humaine. Notre volonté doit être soumise à Jésus-Christ, notre roi. Nous devons lui obéir. Il ne suffit pas de connaître la vérité. Il faut encore la mettre en pratique. Fiat mihi secundum verbum tuum, disait la Sainte Vierge, qu'il me soit fait selon votre parole. La foi et la prudence chrétienne font connaître la vérité divine. Verbum tuum, l'obéissance de la volonté, fait dire fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon votre parole. Jésus-Christ a dit ce fiat à la volonté divine depuis sa conception jusqu'à sa mort sur la croix. À sa conception, il a dit « Ecce venio ut faciam Deus voluntatem tuam » « Voici que je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. » Lors de sa passion, il a dit « Non sicut ego volo, sed sicut tu » « Que votre volonté soit faite et non pas la mienne. » Et toute sa vie, sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Tâchons de l'imiter sur ce point pour qu'il règne sur notre volonté. Enfin, Jésus-Christ doit régner sur nos facultés sensibles, sur tout ce petit monde intérieur d'imagination, de rêves, de souvenirs, de sentiments, de passions. On peut appeler ce monde intérieur notre cœur. Notre Seigneur Jésus-Christ régnera sur ce cœur si celui-ci se laisse attirer par sa bonté. Venez à moi, vous tous qui souffrez, je vous soulagerai. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. Écoutons encore Pie XI. Jésus-Christ est le roi des cœurs. à cause de son inconcevable charité, qui surpasse toute compréhension humaine, et à cause de sa douceur et de sa bonté, qui attire à lui tous les cœurs. Car dans tout le genre humain, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne pour être aimé comme le Christ Jésus. Avant le péché originel, nos facultés sensibles, notre cœur, étaient parfaitement soumis à la raison et à la volonté. C'était le don d'intégrité qui assurait à Adam et Ève la parfaite soumission de la chair à l'esprit, des sens et du cœur à la raison et à la volonté. C'était le bon temps. Mais cela n'a pas duré. Comme Adam et Ève ont désobéi à Dieu, comme leurs facultés supérieures, la raison, la volonté, n'ont pas voulu se soumettre à Dieu, Dieu a permis que les facultés inférieures se révoltent contre les facultés supérieures. Depuis le péché originel, nos passions réclament la liberté. Elles ont tendance à ne pas se soumettre. Nous l'expérimentons tous les jours. Notre imagination est souvent la folle du logis. Elle bat la campagne sans que nous puissions l'arrêter. Parfois même, nous n'arrivons même pas à la suivre. Et notre cœur, il nous joue bien des tours. Nous aimons ce qu'il ne faut pas aimer. Nous désirons ce que nous ne voulons pas désirer. Nous craignons ce que nous ne devrions pas craindre. Nous nous mettons en colère sans le vouloir et nous n'arrivons pas à nous calmer. Ou encore, nous tombons dans la tristesse et l'abattement sans arriver à sortir du puits. Pauvre de nous. Que faire? Bien sûr, il faut d'abord essayer d'apprivoiser ce petit monde intérieur. Il faut que le roi et la reine, je veux dire la raison et la volonté, se concertent, fassent un plan, une stratégie, une tactique, pour soumettre peu à peu ce petit monde. C'est ce qu'on appelle la mortification des passions. Cela demande du temps, du courage, des sacrifices, des pénitences, car la chair doit être domptée. Et il faut quelquefois prendre le fouet contre nous-mêmes. Écoutons le grand saint Paul. Quiconque veut lutter s'abstient de tout. Eux, pour une couronne périssable, nous, pour une impérissable. Pour moi, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens en servitude, de peur qu'après avoir prêché les autres, je ne sois moi-même réprouvé. Vous me direz peut-être, ce langage est austère. Et vous ajouterez, ne pourriez-vous pas nous indiquer une méthode moins sévère pour soumettre nos sens à la raison, nos passions à la volonté? Nous allons demander à la petite sainte de Lisieux son secret. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a compris que notre cœur aimera le bon Dieu s'il se laisse aimer par lui. Voilà pourquoi elle a décidé de se consacrer à l'amour miséricordieux. Lisez dans l'histoire d'une âme comment elle en est venue à faire cette offrande. Je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. La petite Thérèse, la grande Sainte Thérèse de Lisieux, a bien compris, après saint Thomas d'Aquin, que l'amour de Dieu est créateur. Nous aimons une chose ou une personne parce que cette chose ou cette personne sont bonnes. Mais avec Dieu, c'est différent. Cette chose ou cette personne sont bonnes parce que Dieu les aime. Dieu, en aimant une chose, une personne, rend cette chose bonne, cette personne bonne. Si nous voulons devenir meilleurs, il faut nous laisser aimer par Dieu. C'est facile, dans un sens, parce que nous aimons bien être aimés, et parce que Dieu n'attend que cela. Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Et encore, Prebe filimi cor tuum, mon fils, prête-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Dans un sens, c'est facile de se laisser aimer. Mais quand il s'agit du bon Dieu, c'est exigeant. Car noblesse oblige. Et si l'on veut être digne de cet amour, cela exige de nous 1000 petits sacrifices pour faire plaisir à celui qui nous aime tant. C'est ce que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus appelait « effeuiller des roses ». En ce jour de la fête du Christ roi, offrons-lui notre petit royaume intérieur, qu'il veuille bien régner sur notre intelligence en l'éclairant et en la rendant docile, qu'il veuille bien régner sur notre volonté en faisant de nous des hommes de bonne volonté, qu'il veuille bien régner sur notre cœur en nous faisant l'aimer par-dessus tout. Avez-vous remarqué que la fête du Christ roi, étant le dernier dimanche d'octobre, tombe nécessairement dans le mois du rosaire? N'est-ce pas un signe que Jésus ne règne que par Marie, et spécialement par le Saint Rosaire? Continuons donc à bien prier notre rosaire pour que le règne de Jésus vienne et qu'il vienne en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.